ce soir. Nous avons deux ouvrages qu'on va discuter ce soir. On va commencer, et je ne dirai pas grand-chose, sauf que le titre de notre événement s'appelle « Le défi des passions aujourd'hui ». Non, demain, aujourd'hui, hier, ou hier, aujourd'hui, demain. En fait, moi, j'avais un autre titre à l'esprit que je voulais défendre, et peut-être à la fin, je pourrais expliquer pourquoi j'aurais préféré sexe, passion et politique. Et c'est pas juste parce que ceux qui me connaissent savent que je suis obsédé sexuel, mais c'est parce que cette obsession a été attisée par la lecture tout récente de ce beau livre de Julia Sissa, qui va nous le présenter dans un instant. Et par la suite, on profite du passage de Julia à Montréal ce soir et demain. Elle va donner une conférence aussi demain midi dans le séminaire de Mariella. Mais aussi parce que Julia était aussi derrière... en partie, un projet de publication de la revue Anthropologie et Société qui s'appelle Passion politique. Donc, l'ordre de la soirée, c'est que d'abord, on va laisser Julia présenter brièvement son ouvrage. Ensuite, je vais passer la parole à Dominique Scarfone, qui est professeur de psychologie et psychanalyste ici à Montréal. Ensuite, et à l'Université de Montréal. Ensuite, je passe la parole à Ellen Corin, qui est professeure à l'Institut Douglas de psychiatrie à l'Université McGill, ou quelque chose comme ça. Et enfin...
faisons léger, c'est pas grave.
Mais ça va, ça va.
OK. Bon, c'est à peu près ça. Et puis finalement, Mariella va corriger toutes les bêtises que j'aurais dit. Une fois que les quatre auront parlé, moi, je vais saisir la parole encore une fois avant de relancer la discussion et vous passer la parole. Donc, sans dire autre chose, je passe la parole tout de suite à notre amie Julia Sissa, professeure de sciences politiques et d'études classiques à UCLA, mon alma mater.
Merci beaucoup. Je suis très heureuse et très honorée, flattée d'être ici. Donc, pour présenter ces deux ouvrages avec les amis de Montréal, Mariella Pandolfi, Ellen, Lawrence et Dominique. Donc, sexe et sexualité dans le monde ancien, une sorte d'aperçu de ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Disons que chaque fois que la littérature, l'art ou la philosophie créent des modèles de vie amoureuse, de vie érotique, que ce soit la cour interminable faite à Pénélope dans l'Odyssée, le dialogue platonicien, la lyrique grecque, l'élégie romaine, le roman pastoral, la fine amour des troubadours français ou le Dolce Stinova Florence ou encore Shakespeare ou Sade ou l'amour contemporain, à chaque fois nous assistons à la cristallisation d'univers qui sont clos et détaillés. L'expérience amoureuse, pourrait-on dire, est d'abord un paysage dans lequel les amoureux se déplacent en suivant des rythmes particuliers, saluer, approcher, rendre visite, offrir des cadeaux, contempler à distance, donner rendez-vous, partir, revenir et surtout attendre. Patienter devant une porte fermée, guetter un signe, s'éterniser en vue d'un consentement, espérer un retour. L'amour, quand il est arraché à la nature, devient une modulation du temps et un jeu d'espace. Ces manières sont avant tout des manières de temporiser en vue d'un acte sexuel qui ne peut pas être immédiat. Manière de différer des rencontres, de répéter des approches. L'art d'aimer est un art de l'attente, cette mora qui peut être ressentie comme une croix ou comme un délice, mais qui représente toujours l'essentiel d'une expérience polissée du désir. Alors en latin, mora, l'attente, la patience, plutôt la patience active que l'attente inerte, mora, anagramme d'amor. Donc, une expérience polissée du désir, quel désir, et c'était ça qui m'intéressait dans ce parcours donc, qui s'est traduit et qui a été cristallisé dans ce livre. Quel désir ? Eh bien, le désir du désir de l'autre. Le désir non seulement d'une réponse, d'une réciprocité, mais le désir de ce mouvement qu'est le désir de l'autre qui vient vers soi. Le viol ne demande pas de théorie, ne demande pas d'art, ne demande pas de mise en scène. C'est justement le non-viol, l'amour comme non-viol, le désir pour un corps qui peut être un objet sans être une chose. C'est ça qui est au centre de la pensée ancienne du désir et de ce que j'appelle plus volontiers sexe et sensualité plutôt que sexualité. Donc, dans la littérature foisonnante sur l'histoire de la sexualité, qui est la dénomination conventionnelle de cette sorte de discipline, de forme de savoir qui a pris forme de manière tellement imposante dans les derniers 30 ans. Donc, dans cette littérature foisonnante, il semble que cette perspective particulière de faire attention aux espaces-temps de l'amour n'ait jamais été mise en œuvre. Et au contraire, je trouve que c'est cette démarche qui s'impose. Bien des dilemmes sur la nature sociale de la sexualité, sur le rapport entre discours et pratique, s'avèrent oisifs lorsque nous commençons à mettre en place ces espaces-temps dont le bon usage fait l'amour, d'abord urbain et ensuite courtois, l'amour qui civilise le sexe. La question même des genres qui s'intéressent à l'art d'aimer se trouve repensée ainsi d'une manière qui peut rappeler la théorie littéraire de Bakhtin, car on peut montrer que ce sont précisément ces conditions de possibilité de l'action amoureuse, le temps, l'espace, qui génèrent une certaine forme de fiction, la poésie lyrique, le roman, le dialogue philosophique, le traité médical. Chacune de ces formes de fiction, de pensée, de savoir, étant porteuse d'une certaine théorie de l'amour. On pense différemment quand on pense du point de vue de la médecine, de la philosophie, de la poésie, du roman, quand on met en place différents espaces-temps de l'amour. L'amour lyrique n'est pas la même chose que l'amour romanesque ou l'amour philosophique. Donc vous me direz, c'est une banalité. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Une partie du défi d'écrire ce livre dans une mouvance qui est celle donc, de l'histoire de la sexualité, un des défis auxquels j'espère avoir répondu était celui justement de trouver des nuances de lieux différents, de temps différents, de voies différentes. Il n'y a pas une sexualité des anciens, il n'y a pas une sexualité grecque, une sexualité romaine, une sexualité chrétienne. Il y a des discours qui tissent, qui font et défont des modèles, des descriptions de pratiques, des injonctions d'art. Donc l'amour, ça relève de la représentation, ça relève de la rationalisation, pour certains, ça relève de l'art, fondamentalement de la construction d'une expérience qui doit être belle, qui doit être agréable, qui doit être plaisante, qui peut être infiniment angoissante, décevante et destructive, mais donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu est essayer de façonner des manières d'arriver ou de ne pas arriver justement à l'acte nu et cru. Donc voilà pourquoi je parle de sensualité plutôt que de sexualité. Je parle de sexe quand nous avons des discours qui façonnent leur objet en termes de corps, de matérialité, de théorie de la puberté, de théorie de la formation de la semence, de prescription sur les saisons qui sont propices à l'acte sexuel, sur les conséquences de l'acte sexuel, physiologique ou pathologique. Et puis, sensualité. Pourquoi sensualité? Eh bien, par sensualité, j'entends précisément ce jeu du désir qui va à la recherche non pas du corps, chose dont nous voulons jouir, mais du désir qui répond, du désir qui entre en résonance, de cette chose élusive. L'amour est toujours représenté avec des ailes dans le monde ancien. C'est un dieu ailé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il vole, parce qu'il est instable, parce qu'il est insaisissable. Comme nous dit Ovide, comment peut-on saisir l'amour et le faire durer alors que c'est cet animal gracieux et papillonnant ? L'amour est fait pour bouger d'objet en objet, de corps en corps, de jeune femme en jeune femme, de garçon en garçon. Donc, pour saisir l'amour, pour saisir le désir de l'autre, eh bien, il faut se transformer soi-même pour aller à la rencontre de cet autre. Et c'est pourquoi nous voyons que les formes les plus raffinées d'art d'aimer, c'est-à-dire d'une part Platon, quand il s'agit de l'amour des garçons, et d'autre part Ovide, quand il s'agit de théoriser le modèle le plus important dans la tradition occidentale d'art d'aimer les femmes. Et je dis important parce qu'à partir d'Ovide se déroule une tradition qui va donc se développer dans la fine amour, dans la poésie des troubadours, dans le Dolce Stil Novo, Pétrarque, Shakespeare. Donc nous sommes immergés dans le langage d'Ovide et dans la pensée d'Ovide sur l'amour. Alors, donc, qu'est-ce que nous disent les deux grands théoriciens de l'amour, grecs et romains, Platon et Ovide? Eh bien, ils nous disent que pour séduire l'autre, il faut s'altérer. Et il faut entrer dans un jeu de résonance et de mimétisme par rapport à l'autre. Donc l'homme qui veut séduire une femme, surtout, et ça c'est le plus frappant chez Ovide, devra se féminiser, s'efféminer, devra pratiquer des manières de femme, la douceur, la tendresse, la prière qui cajole l'autre, la pâleur, devra mimer en un sens les manières féminines qui vont justement des larmes à une certaine rhétorique, à un certain usage de la parole. Mais aussi, c'est un aspect de la théorie de l'amour qui va bien au-delà de la consommation sexuelle du corps de l'autre et du plaisir. Ce qui compte, c'est que dans la rencontre entre le masculin et le féminin se joue quelque chose comme une version en miniature de l'histoire de la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation, pour les poètes philosophes romains, a commencé viril, rude, naturel, brutal, et puis a franchi un pas. Le pas de la vie domestique, le pas de la cuisson des aliments, le pas des matelas, de cette espèce d'atmosphère accueillante qui est l'atmosphère de la maison. Et ce pas a été franchi parce que le mâle primitif, originel, naturel, donc a rencontré la femme. On rencontre la femme et cette rencontre est contagieuse. Le féminin va vous transformer, va vous civiliser. Donc le procès de civilisation est un procès de féminisation et l'amour urbain, donc l'amour sophistiqué, raffiné, qui culmine dans l'art d'aimer d'Ovide, au tournant donc de l'ère chrétienne à Rome, est un amour qui voit un homme et une femme face à face, un homme qui est civilisé, qui est poli dans tous les sens du terme, qui donc a poli son corps et aussi ses manières de faire, et qui s'est donc relativement féminisé, mais pas trop. La virilité, cette espèce de ligne de partage très difficile à moduler, mais l'art sert à ça, entre la brutalité virile originaire et une féminité qui pourrait être excessive et tournée donc à une sorte de caricature presque drague de la masculinité. C'est le point idéal où l'homme peut vraiment rencontrer la femme. L'homme légèrement féminisé, mais pas trop. L'homme qui sait parler à la femme. C'est lui mentir, mais ce mensonge deviendra vrai. C'est l'homme qui sait surtout être poète. Parce que la culmination de l'art d'aimer pour les anciens, donc aux antipodes de la consommation de l'acte, le corps est une chose, il y a une pulsion, je veux ce plaisir ici et maintenant, la culmination de cette sophistication, disons, de l'acte différé est dans la poésie. Qui dit art d'aimer parle de poésie toujours. Pourquoi ? Ce n'est pas un hasard. C'est que le poème amoureux est un geste, est une lettre. C'est le geste qui dit la distance, l'impossible, le détachement, la séparation, peut-être l'infidélité, mais qui, à chaque fois, essaie de mettre de l'écriture dans ce décalage. Et cette écriture peut être une sorte de performance en temps réel de la souffrance de l'amour, de l'angoisse, de la peur, de la récrimination, de la plainte, mais ça peut être aussi, au contraire, cette espèce de parole qui chuchote, cette parole qui captive, cette parole qui veut séduire, qui veut capturer le désir de l'autre et qui admire. Et donc construit non seulement une espèce de statue à idéaliser du corps de l'autre, à travers les mots, c'est ça que nous faisons, nous sculptons le corps de l'autre, mais aussi qui construit une relation qui est une œuvre d'art. Merci.
Je passe la parole à Dominique Scarfone.
Tâche impressionnante. Je dois dire que, à ma courte honte, avant que Marielle Pandolfi ne m'en parle et ne m'invite à venir ici ce soir, je ne connaissais pas les écrits de Julia Sis. Et que j'avais aussi beaucoup de raisons de refuser son invitation, l'une d'elles étant le décalage horaire dans lequel je me trouve, qui me faisait craindre de ne pas être capable de même penser. Mais quand j'ai commencé à lire le livre de Julia, et qui, malgré qu'il soit arrivé en retard, m'a tout de suite captivé, là j'ai été reconnaissant à Mariella de m'avoir fait connaître cet auteur, qui est maintenant assise à côté de moi. Et cet ouvrage, j'en ai commandé d'autres, mais même Olivieri ont de la difficulté à le faire venir, dont un dont le titre m'épate, « L'âme est un corps de femme ». Je crois qu'il y a là tout un programme extraordinaire, en tout cas pour une oreille de psychanalyste, et qui, je crois, de toute façon, se trouve déjà inscrit profondément dans le livre actuel. Évidemment, je ne peux pas en parler en tant qu'autre chose que ce que je suis ou que ce que j'essaie d'être, c'est-à-dire psychanalyste. Je ne suis pas expert du monde antique, je ne suis pas historien, je ne suis pas latiniste, médiéviste ou quoi que ce soit d'autre que quelqu'un qui travaille et vit beaucoup dans la pensée psychanalytique. Mais je dois dire que j'ai été absolument renversé dans le bon sens du terme, par les choses que j'ai trouvées dans le livre de Julia, qui non seulement m'instruit beaucoup sur la pensée antique, à propos du sexe et de la sensualité, mais qui, à mon avis, et ça, ça sera, je ne peux pas le démontrer pour vous ce soir, mais à mon avis, contient dans son étude extrêmement minutieuse et détaillée, et donc infiniment plus fiable que beaucoup d'autres choses qu'en tout cas moi j'ai pu lire à propos de la sexualité dans le monde antique, par cette étude minutieuse et très fiable, me semble comporter aussi un certain nombre de solutions à des problèmes assez importants de la théorie freudienne sur la sexualité. Pour n'en nommer qu'un, le problème de la bisexualité psychique. Quand Julia Sis, dans son livre, nous démontre, par exemple, comment pour la pensée grecque antique, être saisi par le désir, c'est être homme ou femme qu'on soit, habité par un creux, habité par un vide. Moi, il me semble que là, je lis une bisexualité qui a comme avantage par rapport à la théorie classique de nous faire oublier une image qui serait absolument symétrique. Mâle plein d'un côté, femelle vide de l'autre ou creux de l'autre, pas du tout. Dans la pensée antique, Julia m'apprend que le vagin est tout simplement un pénis inversé, mais que l'homme en proie au désir se sent, comme elle vient de l'indiquer pour d'autres raisons, se sent en quelque sorte pris dans une sorte de féminité, de passivité, qui n'en fait pas de lui moins un homme, mais qui le place dans une position d'être manquant, d'être qui est habité par une faim, un appétit, donc un creux. Et pour moi, ça apporte quantité de voies de solution à des problèmes qui autrement se présentent seulement d'une façon, je dirais, dogmatique et naïve, c'est-à-dire le plein et le creux vus comme des emboîtements simples, alors que à ce moment-là, on aurait de la difficulté à penser l'existence d'une psyché chez l'homme, chez le mâle, par exemple. Or, quand Julia écrit par ailleurs dans ce livre que je n'ai pas encore lu, puisque je l'ai perçu, que l'âme est un corps de femme, il me semble que justement, elle apporte d'une façon à nouveau non symétrique, c'est-à-dire homme et femme ont une âme, mais donc homme et femme ont un corps de femme quelque part, il me semble qu'elle apporte une solution extrêmement intéressante et élégante à la question de qu'est-ce que la psyché. Or, pour un psychanalyste, évidemment, c'est central. Spinoza avait déjà dit que l'âme est une idée du corps. Julia Sis, il me semble, elle apporte un enrichissement à cette idée géniale de Spinoza, c'est-à-dire l'âme est une idée d'un corps de femme. Et ça me semble tout simplement poser la question, comme elle vient de le mentionner d'ailleurs, la question des origines de la civilisation. Comment avoir une psyché, avoir une âme et être civilisé, c'est deux choses qui sont tout à fait connexes et tout à fait consubstantielles, je dirais presque, et où donc la question du désir, de la tendresse, de l'amour, de la sensualité sont en quelque sorte une sublimation par rapport à la matérialité du sexe qui, lui, bien sûr, peut être décrit de façon naturaliste, encore qu'il y a des ambiguïtés sexuelles qui posent toutes sortes de questions, mais l'observation tout simplement naïve et naturaliste de la différence du corps sexué pourrait nous faire tout simplement penser à une continuité dans le plan psychique, qu'il y aurait une âme masculine et une âme féminine. D'ailleurs, par exemple, Jung a essayé de poser les choses dans ces termes-là. Or, chez Freud, ça ne se pose pas comme ça. Masculin et féminin, chez Freud, c'est le synonyme de activité et passivité, et c'est présent dans les deux sexes. Comment comprendre ça? Et comment comprendre que Freud dise que la libido, par exemple, est masculine, mais que la psyché est féminine, ou Winnicott encore, qui va parler de la composante féminine du psychisme, qui est la partie créative, créatrice chez tous et chacun. Mais à ce moment-là, on a dans l'étude que Julia Sissa fait de façon très détaillée dans sa lecture de Platon, d'Aristote, Et dans sa narration aussi de procès célèbre dans l'Athènes classique, il me semble qu'il y a là toute une mine de non seulement de concepts, mais de visions historiques qui nous apportent avec une élégance incroyable des réponses et qui me font m'apercevoir que Freud, dans le fond, aurait pu emprunter beaucoup plus à l'Antiquité que le mythe d'Édipe, que l'histoire d'Édipe, puisqu'il y a énormément plus à argumenter et à mettre en place pour donner un compte-rendu tout à fait à la fois vivant et théoriquement soutenable de la constitution psychique. Je pense, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement, je pense à une chose en particulier que Julia... Je le cherchais tout à l'heure et je l'ai perdu. Voilà, c'est ici. Julia Sis, dans son chapitre qui concerne le corps, est en train de décrire le corps hystérique décrit par Hippocrate, c'est-à-dire c'est l'utérus qui se promène quand il y a une souffrance sexuelle qui se promène dans le corps et qui crée l'hystérie, ou c'est de là que vient son nom, vous le savez. Mais elle nous apprend que chez l'homme comme chez la femme, la sensibilité érotique trahit la présence d'une motilité animale, je traduis directement de l'anglais, je vous m'excuserai, comme qui était d'abord spécifique aux femmes, mais que ça contamine les hommes en même temps. Parce que dans la mythologie, au départ, il n'y avait que des hommes, mais non des hommes sexués, nous dit-elle, des hommes indéterminés, et que lorsqu'il y a eu la création de la femme, comme a practical joke, dit la mythologie de Zeus pour les humains contre qui il était fâché. Et alors, il a fallu donner un pénis aux hommes, mais l'acquisition de ce pénis, loin d'être un plein, on pourrait dire, c'est un creux, c'est le désir qui apparaît. Donc, il y a là quelque chose, pour moi, d'une richesse absolument fantastique pour sortir de cette espèce de psychologie simpliste où il y aurait deux sexes bien délimités et deux sexualités qui seraient avec des frontières claires. Alors quand je ne peux pas m'éterniser, j'aurais tellement de choses à dire sur tout ce que j'ai trouvé d'absolument fascinant dans ce livre, mais quand elle pose le titre déjà d'une partie du livre qui est « Eros tyran », donc la question du désir tyrannique qui est vrai pour les deux, alors ça pose toute la question aussi du masochisme, du sadisme, et ainsi de suite. Il y a tout un programme psychanalytique absolument documenté et sans que jamais l'auteur se sente obligé d'affirmer les choses dogmatiquement, de s'en référer à Freud ou à Lacan ou à qui que ce soit d'autre. Déjà dans la pensée antique, elle nous fait ressortir tout ce programme d'une façon absolument renversante. Je suis un lecteur comblé et je remercie beaucoup Julia Sis.
Ellen.
C'est ça, voilà. Alors moi, je suis une lectrice doublement comblée parce que j'ai eu énormément de plaisir et à lire le livre de Julia, qui, comme l'a dit Dominique, est d'une richesse incroyable, et à lire aussi ce livre, cet ouvrage sur les passions politiques. Donc Mariella Pandolfi a édité avec Vincent Crapanzano, Julia Sissa faisant d'ailleurs la postface, et c'est aussi un ensemble de textes absolument remarquables. Alors de chaque côté, on a des passions, le désir du côté de Julia, la sexualité, la sensualité. Du côté des passions politiques, des passions que je dirais plus dures, les questions de violence, de colère, de ressentiment, des passions dont ils vont essayer de saisir, chacun à sa façon, la manière dont elles animent le champ du politique. Donc, en définissant cette notion de passion politique, les auteurs redessinent un champ tout à fait original, qui met en question à la fois les études traditionnelles du champ politique et à la fois la façon dont on comprend normalement les patients. Alors, ce qu'on se demande, et ça c'est une question que je vais poser à Mariella, on se demande si on sent cet ouvrage sous le signe d'une urgence de pensée, et on se demande si cette urgence, c'est lié à des phénomènes nouveaux qui traversent la scène sociale et culturelle, ou à leur mise en mots, un certain type de présentation par les médias, par les politiciens, qui nous affecte, qui nous touche, qui nous déplace, qui nous fait bouger, ou dans quelle mesure il y a là la marque d'une sensibilité particulière d'auteurs, je vais revenir dans un moment là-dessus, qui se situent chacun à un point très particulier des rapports entre les disciplines. Donc une question posée, c'est une question de nouveaux visages du social, est-ce que c'est une question d'une sensibilité particulière? Je dirais sans doute les deux. Mais encore faudrait-il voir comment ça s'articule. Dans leur introduction, les deux éditeurs, Mariella Pandolfi et Vincent Crapanzano, présentent une définition du désir qui, au début, m'a fait, je l'ai dit à Mariella, m'a fait bondir, m'a déstabilisé, je dirais. Alors, parce que la façon dont ils définissent les passions, ce sont des actes et des raisons. Alors, des actes et des raisons, il me semble que les passions, c'est pas ça. Mais c'est ça, à condition de redéfinir le sens des mots. Et quand on voit l'acte et qu'on lit cette question de passion comme acte et qu'on lit les textes de cette revue, ce qu'on voit, c'est une force, une énergie à l'œuvre qui pousse, qui est portée, qui est porteuse, qui fait son trajet et donc qui pousse à l'acte. Donc à ce moment-là, l'acte, mais sous sa force de pulsion, sous sa force, je dirais, d'énergie, et donc une énergie qui se révèle mobile, mobilisable, déplaçable, de la même sorte, de la même façon que pourrait se déplacer le désir, mais ici dans un champ beaucoup plus dur. Alors, les deux grandes passions autour desquelles se centrent, bon, il y en a beaucoup de déclinaisons, mais je dirais les deux grandes passions autour desquelles se centrent ces écrits, c'est d'une part tout ce qui tourne autour de la violence et ses multiples déclinaisons, et d'autre part, ce qui semble répondre à l'empathie, hein, cet affect, je dirais, cette passion suscitée par le spectacle du malheur des autres, mais une empathie, je dirais, qui en soi n'est peut-être pas une passion, mais qui nous porte de façon telle, en fonction de notre propre indignation, qu'on en arrive à justifier, à porter sans aucun esprit critique les nombreuses interventions qui se mettent en place sur la scène internationale pour essayer d'y répondre. Donc là, il y a là, je dirais, une façon, je dirais, de tourner ou de retourner cette question d'empathie et de voir un peu, non seulement ce qu'elle porte, mais c'est aussi ce qu'elle vient marquer et masquer, plutôt, d'une grande violence à l'œuvre. Entre les deux, un sentiment d'insécurité généralisée, dont on peut dire que si ce n'est pas une passion, c'est un embrayeur de passion, certainement, et qui va porter notamment une tendance à la massification des pensées et des personnes, des groupes qui font corps face à ce sentiment d'insécurité généralisée. Bon, ça c'est pour l'acte. Les passions comme raison, oui, peut-être, mais si on entend par raison ce qui est en excès par rapport aux raisons raisonnables. Et je pense que ce que les textes font, c'est de reposer la question des raisons d'une manière beaucoup plus essentielle, beaucoup plus profonde, beaucoup plus troublante, je dirais. Donc le champ des passions politiques est caractérisé par sa mouvance, par de multiples niveaux de raisons et de sens qui s'enchevêtrent, et également par cette façon dont sont ébranlées les idées reçues et conventionnelles. Donc il y a là une série de textes, et particulièrement les textes d'introduction et la postface écrite par Julia, une série de textes qui ébranlent les façons habituelles de travailler et le champ du politique et le champ des passions. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, je dirais, cet ouvrage se situe à l'avant-garde, je dirais, des approches critiques dans les sciences sociales contemporaines. À l'avant-garde pourquoi ? Parce que ça reformule la question de la critique des savoirs et des sciences en termes incarnés, au plus proche du décor, au plus proche justement de ce qui anime le passionnel et les émotions en chacun de nous. Bon, une critique qui n'épargne donc pas le locuteur, celui qui raconte, celui qui cherche, et également, je dirais, une approche critique, et ça c'est quelque chose que j'admire énormément, qui me paraît essentiel dans le champ contemporain, une approche critique animée par un souci éthique, que Mariella développe particulièrement, mais d'autres auteurs aussi, dans son article, en posant par exemple la question du témoin. Quand on fait l'ethnographie de zones marquées par une très grande violence et qu'on raconte ce qu'on a vu, est-ce qu'on fait de l'exhibitionnisme? Est-ce qu'on fait du voyeurisme? Est-ce qu'on contribue à renforcer les violences en cours? Quelle est la position éthique d'un témoin? Quelle parole peut-il prendre? Au nom de quoi? Au nom de qui? Je dirais des questions que Mariella, je dirais, avec la force de son verbe habituel, cristallise dans les termes d'une ethnographie désorientée, donc qui accepte de refléter les contradictions, les paradoxes, les trous, les hésitations. Une ethnographie désorientée dont elle propose qu'elle évolue vers une ethnographie de la désorientation, comme telle. Je dirais une formulation extrêmement puissante. Donc on a l'impression que plus qu'un domaine circonscrit, le fait de considérer les passions politiques est plutôt un fil conducteur ou un opérateur de déstabilisation pour considérer la science sociale et culturelle qui nous entoure, et le jeu du politique. Dans ce travail, les situations de crise sont saisies comme des révélateurs de processus plus généraux. Et là, on peut se demander, et ça c'est une des questions aussi que je voudrais poser, et je la reposerai à Julia après en rapport à son texte, mais ce qu'on peut se demander, c'est si ces situations de crise, je dirais, mettent en œuvre des procédés et des dispositifs extraordinaires qui viennent modifier et infléchir le fonctionnement des sociétés et des passions dans la société, ou bien, et ça c'est beaucoup plus inquiétant mais peut-être plus vrai, si ces situations de crise donnent à voir, je dirais, des forces qui travaillent le social et culturel sur la scène contemporaine, mais qui normalement demeurent non vues, relativement secrètes. Alors, il y a des thèmes, une série de thèmes qui insistent à travers les articles. La construction de l'autre comme étranger, l'enjeu de la dignité, penser la violence nouvelle qui apparaît sous le couvert des dispositifs de gestion, la thérapeutisation de la violence et de ses effets, la transformation des émotions individuelles en émotions collectives. Ce qui m'intéressait particulièrement, je dirais, en tant que psychanalyste, c'est aussi non seulement la façon dont les auteurs cherchent à articuler ce qui est de l'ordre de l'universel avec tout le discours des droits, ce qui est de l'ordre du local avec les questions, l'intervention de la culture, des habitudes, et ce qui est de l'ordre des singularités avec la question du corps, mais aussi la manière dont les auteurs s'intéressent, et l'ouvrage comme tel, à déplier les termes des questions, à déplier les réponses, et à faire ressortir la pluralité des constructions possibles de ces éléments de base qui constituent la question des passions dans le monde contemporain. Il est évident qu'avec un champ de recherche découpé de cette manière, même si ce n'est pas un domaine particulier, découpé en fonction de ces lignes de force, il est évident qu'il est fondamental de sortir des cadres pensés de sa discipline. Alors c'est intéressant quand même, et ce n'est pas par hasard, que les trois auteurs principaux qui encadrent ce travail sur les passions politiques, ce travail qui est le résultat de nombreux séminaires, je dirais de rencontres, de conférences, où les auteurs se sont croisés et ont travaillé ensemble sur un espace de quelques années que Mariella nous précisera, que chacun de ces auteurs est lui-même à la limite, ou elle-même à la limite, sont tous des gens qui sont dans le champ des sciences sociales et politiques, mais qui ont une familiarité de première main, notamment avec le champ de la psychanalyse, qui la connaissent, qui l'ont utilisée dans leurs écrits, et qui se sont laissés déstabiliser, je dirais, par le potentiel provocateur de la psychanalyse. Alors ainsi, quand on lit comme psychanalyste les textes de ce numéro, qui ne parlent souvent pas explicitement de psychanalyse, ce qui frappe, c'est la convergence avec les thèmes dont on traite, nous, de notre côté. Sur le plan de la méthode, cette nécessité de déplacer le manifeste pour essayer de faire émerger les ressorts sous-jacents dans l'ordre du pulsionnel et une attention particulière aux contradictions, aux décalages, à ce qui insiste. Un peu le même genre d'écoute que celle que nous utilisons dans l'écoute clinique. Sur le plan des notions, la notion de force, l'harnachement de la sexualité et la violence, la question de la massification, la dimension pulsionnelle du rapport au leader, la construction de l'autre étranger, les mécanismes d'expulsion, tous des thèmes qui sont également travaillés dans le champ de la psychanalyse. Donc des thèmes peu abordés généralement dans le champ des sciences sociales, mais que vient enrichir le fait de les aborder par le biais du politique. Alors, quand on pense, donc, on voit comment la collaboration entre les sciences sociales et une approche psychanalytique sensible à justement ces forces qui animent notre action dans le monde, le champ singulier et le champ du collectif, comment elle s'impose d'elle-même d'une certaine façon. Mais ça oblige, je dirais, cette notion même de passion politique oblige chacune des disciplines à se confronter à sa limite. Hein ? Les sciences sociales à se confronter à ce qu'elles n'arrivent plus à penser avec leurs méthodes, avec leurs outils, et je dirais aussi la psychanalyse, avec jusqu'où elle peut aller, mais là où son expertise s'arrête et là où il y a certains phénomènes qu'elle n'arrive pas à penser depuis son lieu. Et je pense que tant une discipline que l'autre ont énormément à profiter et à s'enrichir de ce travail conjoint. Alors très très rapidement, par exemple, l'apport de la psychanalyse à cette étude des passions politiques, je dirais, c'est la profondeur de la réflexion qu'elle a développée autour d'une déconstruction de l'idéologie de la rationalité, pour reprendre d'ailleurs les termes de Mariella, la dénonciation du pouvoir de l'heure, des raisons que nous donnons à nos actions, la prise en compte de la pulsionnalité de l'être humain. Nous sommes faits de sexuel, de violence, du nouage entre les deux, d'un narcissisme de repli sur soi et d'une orientation vers autrui. Également, la dimension énergétique des pulsions, cette poussée qui les amène à s'accrocher à des objets extérieurs pour essayer de se donner une forme et pouvoir avancer, mais qui se déplace continuellement d'une forme à l'autre. Le rôle de l'imaginaire et des fantasmes dans la mobilisation des passions. Le pouvoir d'homogénéisation des identifications avec les chefs et également entre les membres d'un groupe. Donc toutes les notions travaillées dans un champ qui sont abordées dans l'autre et qui pourraient enrichir, je pense, beaucoup la façon dont ces auteurs abordent le champ des passions politiques. Du côté inverse ou en sens inverse, je pense que dans les dernières années, surtout dans le champ de la psychanalyse française, il y a tout un regain d'intérêt pour la notion que Freud avait élaborée à la fin de sa vie, qui est la notion d'un travail de la culture. Un travail de la culture qui est une exigence de transformation de ce fond pulsionnel qui nous constitue, tant du côté du sexuel que du côté de la violence. Un travail de transformation qui opère à la fois sur le plan des psychés individuels et sur le plan des sociétés. Un travail de transformation toujours susceptible d'ailleurs de régression. Alors ça c'est bien, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se publient maintenant et qui sont vraiment fascinantes. Mais quand la psychanalyse aborde la question du collectif, la question des sociétés, c'est généralement en termes génériques. En termes génériques, alors ce que, je dirais, ces études apportent en propre, c'est une attention à la spécificité de la manière dont se nouent dans le collectif, justement, ces phénomènes qui nous font humains et dont on parle plus généralement. Alors, en conclusion, il s'agit d'un ouvrage, d'un livre qui ne nous laisse pas intacts. On peut remercier les auteurs pour leur passion à explorer. Je pense que c'est une passion qui nous communique extrêmement bien. Et ce qui resterait à faire, en plus, comme une des choses à faire, Mariella, c'est non seulement d'essayer d'amplifier ce recours à l'autre, à ses forces pour approfondir, je dirais, les thèmes que l'on travaille dans son propre champ, mais aussi penser théoriquement la rencontre elle-même. Comment peut-on penser la rencontre entre la psychanalyse et les sciences sociales ? Deux ouvrages absolument remarquables.
Merci.
Un commentaire remarquable aussi. Je passe la parole à Mariella.
Mais merci, Hélène. Vraiment, c'est très difficile après d'intervenir et je souhaite seulement que vous puissiez lire et après critiquer les deux ouvrages. Et je pense que tu as touché vraiment, qu'on peut dire, c'est très intéressant, tu as touché les points, disons, la source du livre et des livres, mais aussi la source de ces numéros d'anthropologie et société, mais aussi, qu'on peut dire, l'attention qui a provoqué ces numéros. Et qui a vraiment déterminé en certains moments les moments de dire ok, alors on commence à passer, qu'on peut dire, à l'acte en termes des défis, de s'exposer. Parce que pendant 3 ans, on a commencé, disons, à trouver des moments, des espaces publics, mais un peu plus privés, d'un groupe d'études qu'il voulait vraiment, pousser à la limite certains questionnements qui venaient dans la partie théorique de sa propre discipline, mais aussi dans tout un travail, qu'on peut dire, des terrains aussi, c'est les terrains peut être, qu'on peut dire, les divans de la psychanalyse, peut être la réflexion théorique en philosophie, en sciences politiques, ou dans les terrains de l'anthropologie. Donc je pense que nous avons, qu'on peut dire, vraiment senti le besoin de se poser, qu'on peut dire, une question fondamentale. Pendant des années, on avait pensé que les passions étaient évacuées. Et l'anthropologie avait travaillé énormément sur l'anthropologie des émotions, comme stratégie rhétorique, stratagème rhétorique, reconfiguration du social, mais à travers un style narratif. C'était comme si cette vision, cette force et ce passage, disons, à l'acte, cette possibilité de créer un nouveau champ du politique à travers une reconfiguration de la passion comme quelque chose qui est constitutif du champ et constitue. Donc, la tension commande un champ, détermine quelque chose de nouveau au niveau du subjectif et du collectif, mais aussi cette émergence du nouveau, cet événement inattendu qui est, disons, là, le moment de la passion politique peut aussi complètement reconfigurer un champ politique. Et ça, c'était une des questions qui, disons, dans notre privé, dans notre amitié, je dirais qu'avec Giulia, on a beaucoup, qu'on peut dire, pensé, réfléchi, et je dois dire que la tension de Giulia dans son travail nous a porté énormément. Aussi, quand nous avons eu le courage de passer à d'autres champs, disons, de notre terrain et de notre spécificité disciplinaire. Mais l'idée que tu as très bien soulignée, et c'était que, qu'on peut dire, nous, on a travaillé sur la limite. Alors, peut-être que travailler sur la limite est le premier niveau. Comme tu dis, il faudra après s'interroger, là, comme si le travail était accompli. Mais nous avons senti la nécessité, qu'on peut dire, de se poser vraiment des questions fondamentales et renverser, qu'on peut dire, toutes les procédures autour de lesquelles, qu'on veut dire, s'était située la notion des passions. Donc, c'est pour cette raison que passion politique, liée du politique, et violence sont, qu'on peut dire, la ligne rouge qui a établi l'importance de ces numéros. Je dirais aussi une autre chose qui est plus personnelle et plus liée à mon travail de recherche dans des zones de guerre, de conflits, où j'ai trouvé que toute la compassion et la légitimité de l'action humanitaire et aussi du juridique autour du droit humain était une façon parfois de dépassionner, de créer une série de mécanismes gestionnaires de la souffrance et de la compassion et, disons, une occasion manquée de réfléchir sur quelque chose qui était beaucoup plus complexe. Comment, disons, autour travailler sous la souffrance de l'autre plutôt que s'interroger sur les points clés, disons, qui étaient autour de la domination, autour de la violence juridique, autour de la violence aussi de l'action démocratique parfois, on était là, comment on peut dire, à se poser des questions, comment est la meilleure gestion pour sauver des vies, pour sauver des corps. Et ça, c'est une posture, comment on peut dire, qui mérite beaucoup de réflexion. Pourquoi nous sommes très capables de sentir une compassion dépassionnalisée. Donc ça, c'était un point pour moi très important et fondamental. Et autour de cette questionnement, évidemment, il y a eu des auteurs, notamment, on a pas ici Marc Abeles, qui a postulé tout un problème de justement de la survie comme autre action du nouveau champ du politique. Quand nous disons les champs du politique, signifie pas, disons, un champ signifie l'espace où se reconfigure dans un mouvement par lequel vraiment les émotions se transmutent en passion. C'est cette transmutation en passion qui détermine d'autres, disons, espaces du politique. Ou, je dirais au contraire, dans mon travail, où on cherche de ne pas transmuter et créer, comment on peut dire, une compassion gestionnaire. Alors, donc, je pense que ça, c'est le questionnement fondamental. Évidemment, c'est mon questionnement avec, disons, Vincent Crapanzano. On a quand même eu certains moments de tension très intéressants parce que lui regardait plutôt dans la, disons, dans les côtés des émotions, dans la singularité. Et moi, j'ai pensé toujours que, comme on peut dire, Machiavel en était cette hypothèse toujours le problème de la sécurité de l'État et la passion en termes subjectifs. Hein, comment, comme on peut dire, équilibrer ou remoduler cette idée de, comme on peut dire, de la tension de l'État. Non, comment la sécurité de l'État et la passion des sujets. C'est ça, j'avais pensé toujours que Machiavel m'avait beaucoup enseigné à ce niveau et je l'avais vu toujours comme ça. Alors, ça sont, disons, les premières choses, mais aussi une autre chose qui était très fondamentale, c'est que dans les dernières, disons, années, et, qu'on peut dire, cette rhétorique de les passions revient, mais revient aussi comme peur. La peur est comme l'idée que la passion se montre, se découvre dans la phase la plus haute, donc le moment de la révolution, le moment de la révolte. Et alors c'est là que les passions politiques sont reconnues et sont étiquetées parfois comme fanatisme, comme quelque chose qui doit être réprimé, non? Et sans, qu'on peut dire, comprendre ce moment, disons, de la possibilité d'une force qui reconfigure complètement l'espace politique, social et subjectif. Alors voilà, ça c'est mon avis.
Merci Mariella. Et merci beaucoup à Mariella et à Julia de m'avoir embarqué dans ce projet des passions politiques. Je voudrais juste dire deux petits mots à titre de politologue, parce que la science politique, ben, Julia fait partie aussi d'un département de sciences politiques, et on peut se demander, mais qu'est-ce que ça vient chercher en sciences politiques ici? Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un politologue vient faire ici? Parce qu'en fait, la science politique est une discipline assez infantile. C'est une discipline qui ne comprend pas les passions du tout. C'est une discipline qui a une confusion entre passion et pulsion, notamment. Mais je n'irai pas dans l'autocritique, l'autoflagellation de la science politique. Je voudrais tout simplement souligner un terme qui m'a vraiment captivé, mais qui m'a enfin fait comprendre le sens même de notre volume sur les passions politiques. Il s'agit du terme « sensualité », tel que Julia le développe dans son ouvrage. On n'a bien sûr pas encore mentionné le nom de Foucault, qui plane bien sûr derrière tout ce débat, toute cette discussion. Et j'étais fasciné par la définition que Julia donne de la sensualité. Elle ne parle pas de sexualité. Sauf que dans l'italien, à l'origine, tu parles de sexualité et sensualité. Tu abandonnes sexualité, j'en suis content, parce que sensualité est beaucoup plus intéressant. Elle définit sensualité comme le désir de se faire désirer. Et quand j'ai lu cette définition, j'ai dû bien sûr penser à Foucault, et à sa définition du pouvoir politique, qui est l'action sur l'action, une sorte de, d'interaction stratégique indirecte. Et la sensualité est exactement ce même genre de relation politique. En fait, je dirais que la sensualité, c'est le politique écrit avec grand P. Et donc, c'est aussi cette notion que le politique est une relation, que le politique n'existe pas chez l'individu, ce n'est pas sa raison, ce n'est pas ses pulsions, c'est ses passions qui sont traduites par une interaction comme celle de la sensualité, qui ne peut jamais se faire. On ne peut pas être sensuel tout seul.
Non.
Difficilement. On peut l'essayer, mais ça ne marche pas. Et donc, mais c'est aussi toute cette notion narrative, que la sensualité, c'est une histoire, c'est un processus, c'est toujours un point de mire, ça nous échappe constamment. Et ça décrit tellement bien ce que c'est que l'action politique, cet horizon qui est toujours au-delà de notre capacité. Donc, avec ce terme sensualité, j'ai enfin compris la pertinence de se pencher sur le problème des passions politiques et de concevoir, de faire une théorie politique en termes des passions. Notamment avec ces idées de Julia, encore une fois, de la passion comme une forme de raison, une forme de narratif, une justification, toute une interaction, toujours un mode d'interaction, de dialogue, un processus dialogique constamment. Et finalement, à la fin de son livre, Julia s'attaque à Foucault. Je ne suis pas toujours sympathique à cela, parce que je suis dans mon phase de... Mais enfin, je me rends compte que toute cette construction de Foucault autour de la sexualité, et notamment le savoir-pouvoir, et en termes de la discursivité de la sexualité, qui finalement démontre que, comme bien de politologues, Foucault demeure assez phallocrate, en ce sens que c'est la politique puissance, le pouvoir-savoir qui évacue justement le politique du politique et en fait un jeu de viol. Donc, sur ce, je vais repasser la parole à Julia qui va certainement vouloir répondre à tout le monde. Et puis, après Julia, je donne 30 secondes aux autres, et puis j'ouvre au public.
Eh bien, merci beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'aimerais peut-être rebondir sur les derniers mots de Laurence. Laurence, pardon, sur justement le phallus, parce que c'est une manière aussi de rentrer en résonance avec ce que Dominique disait tout à l'heure. Je pense que c'est exactement ce que, au fond, j'ai essayé de faire ou que je me suis retrouvée à faire. En bougeant de la sexualité à la sensualité. C'est vrai que dans donc le titre italien du livre, ce livre est né en italien, et puis je l'ai pas simplement, j'ai pas simplement révisé la traduction, mais donc la version anglaise est aussi en partie réécrite, et la version française sera carrément réécrite, mais c'est ça le mouvement. Aller de la sexualité à la sensualité, c'était pour moi me rendre compte que je voulais faire une sorte de contrepoint à ce discours phallique, ce discours justement de la pénétration comme modèle de domination et cette espèce de collage que Foucault fait dans les volumes donc sur la sexualité des anciens entre le dispositif de pouvoir qui n'est plus celui de la confession et de la psychanalyse comme c'était le cas pour la sexualité moderne, mais qui devient celui donc de la relation de possession qui trouve sa forme la plus extraordinaire pour Foucault et presque totalisante pour les anciens, qui est l'amour pédérastique, c'est-à-dire l'amour d'un homme adulte pour un garçon. Et évidemment, il y a du pouvoir dans une relation entre un homme adulte et un garçon, un pouvoir social, symbolique, imaginaire, extraordinaire. Et, mais en même temps, il y a encore un pas à franchir quand on passe de ce pouvoir à un acte sexuel qui est toujours le même. Il y a comme une espèce de script sexuel qui est très normatif et qui est celui justement de la pénétration. Alors cette idée de Foucault a eu une influence énorme dans les études d'histoire de la sexualité et surtout de la sexualité des anciens. Et pour moi, il s'agissait de tisser comme ça à contre-courant pour faire une place à autre chose. Faire une place à quoi ? Au creux. Faire une place justement au désir à côté du plaisir consommatoire de l'acte sexuel qui est l'usage d'un instrument, le phallus. Le phallus n'existe pas. C'est ça que je veux dire dans ce livre. Il n'y a pas de phallus, il y a le pénis. Le pénis, c'est le phallus dans son creux. C'est le phallus qui essaye de devenir ce qu'il doit être, mais qui n'y arrive pas ou qui arrive de façon capricieuse, une fois oui, une fois non. C'est justement le phallus démitisé, c'est le phallus qui n'est pas un instrument, mais qui est cette partie du corps qui est tellement difficile à avoir pour le corps qu'il a, parce que c'est un avoir qui n'est jamais sans reste. C'est un avoir qui n'est jamais possession complète, parce que ce désir dont le phallus érigé devrait représenter l'accomplissement est une volonté qui est un événement. Il faut que ça arrive pour que ça puisse traduire la pulsion, le désir, la volonté, l'acte, justement. Mais tout le problème est dans justement l'incertitude de cet événement. Et au moment où on aborde la sexualité masculine, de ce point de vue, on voit autre chose. C'est-à-dire on voit que quand Homère parle de sexe et de séduction, il s'intéresse justement à la surprise de cet événement, du désir qui vous prend et vous saisit. Que quand la tragédie grecque s'intéresse à la sexualité féminine, elle s'intéresse justement à tout ça, à cette espèce de force tyrannique qui vous prend, qui vous lâche, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et puis ça continue. Chez Platon, c'est la même chose. C'est l'événement du désir qui fait problème, qui est intéressant. Et donc, tout à fait vrai, j'ai essayé de faire place au creux, chez la femme, mais aussi chez l'homme, dans ce qu'on appelle la construction de la masculinité. Mais la construction de la masculinité, mais c'est un cauchemar. C'est ça que je voulais, en un sens, faire ressentir, le cauchemar de la construction de la masculinité, le cauchemar du mythe du phallus, et au contraire, le fait que la pensée ancienne a travaillé l'impossible de la puissance ou l'incertitude du désir et justement tout ce qui est de l'ordre de ce qui se creuse, de ce qui rate et qui se creuse dans le jeu entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc merci à vous deux et merci à Hélène aussi pour la reprise un peu de la place du discours des émotions, pour les émotions politiques, je n'entre pas là-dedans parce que les minutes sont...
Je vous donne 30 secondes à chacun, rapidement.
30 secondes, bon. Moi, je suis en train d'apprendre beaucoup ce soir parce que le titre « Passion politique » me posait un problème juste au niveau des termes. Si la politique, c'est l'action sur l'action, le pouvoir, l'action sur l'action, et la passion, ça vient de patior, donc de pâtir, de subir passivement, il y a là comme une collision des termes qui est intéressante, mais qui en même temps pose énormément de questions. Et là, avec ce que Julia Sissa vient de dire, il me semble qu'il y a comme un petit tunnel qui s'est ouvert entre les questions. C'est-à-dire, et c'est une question que j'adresse autant à Mariella qu'à Julia et à Hélène aussi, Est-ce que la question de passion politique dont vous parlez, j'ai cru comprendre que pour Mariella, c'est important que la politique ne soit pas seulement raison, qu'il y ait passion. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, est-ce que j'ai bien compris, que ce dont il s'agit, ça serait de penser une politique où il y aurait la possibilité d'être atteint d'être par l'autre, d'être passible, comme dirait Lyotard, plutôt que passif, parce que passif, c'est trop péjoratif, mais d'être atteint, d'avoir d'être passion dans le sens où l'autre peut nous faire pâtir et donc nous inciter à une action, mais qui tiendrait compte de l'atteinte par cet autre, de l'existence de cet autre. Et là où ça rejoint Julia, c'est pour moi en tout cas, c'est par la pensée de Lévinas. Ça m'éclaire aussi sur pourquoi Lévinas un jour écrit que l'autre, c'est le féminin. Que le véritable autre, c'est le féminin. Et j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi il affirme une chose comme ça. Mais il me semble qu'à ce moment-là, si on suit la ligne de raisonnement qui travaillerait en vue d'une politique qui serait faite de passion et donc de la possibilité, non pas d'exercer phalliquement un pouvoir qui exerce un contrôle sur l'action de l'autre, mais d'une politique qui tiendrait compte de l'autre et qui se laisserait atteindre et qui donc poserait une attitude éthique qui donnerait la primauté à l'autre, comme d'ailleurs le pose Lévinas, c'est-à-dire... Et cet autre serait dans l'ordre du féminin, non pas du féminin au sens du sexuel, du sexe féminin, mais de ce creux dont parle Julia. Il me semble qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui pour moi commence à circuler entre des thèmes qui, à première vue, pourraient sembler différents, c'est-à-dire que cette politique serait féminine, non pas au sens de la féminisation sociologique dont on parle beaucoup, mais beaucoup plus d'une possibilité finalement que, pour moi, je traduirais ça par les termes, que du psychique. Si on s'entend que la psyché est un corps de femme, que l'âme est un corps de femme, donc une politique qui concilierait l'action au niveau social, au niveau macro, et une sensibilité à ce qui est la souffrance, il faut le dire dans ces termes-là, qui n'ont rien de religieux, la souffrance de l'âme contemporaine.
Mais si je peux, excusez-moi, je saute un moment parce que je voudrais... Mais je pense que tu as touché vraiment un point qui est très important. Je n'avais pas pensé, mais c'est sûr que ce que Lévinas nous propose pourrait être vraiment un autre fil rouge. Mais si je pense... L'Iran, avec ce qui s'est passé, disons, cet été, et ce qui se passe aussi, peut être, qu'on peut dire, un très bon espace sur lequel on peut confronter ce que nous sommes en train de dire ce soir, comme possibilité, comme différentes étapes, qu'on peut dire, de la violence, de les passions et du politique, mais aussi, qu'on peut dire, dans tout ce qui... qu'on peut dire, ce qu'était... ce que les gens d'Iran disaient déjà, qui ont dit aussi à Leipzig, on n'est pas une foule, on est un peuple. OK? Donc, cette idée... Et à partir de là, qu'est-ce que s'est produit? Hein? Et puis, s'est produit ce que tu étais en train de dire, Dominique, peut-être, un nouveau espace d'entendre, qu'on peut dire, vraiment l'autre. Et alors, ça, c'est du féminin. Oui, dans le sens que vous avez proposé aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Parce que c'est, qu'on peut dire, c'est un renversement des enjeux du pouvoir et du politique qui était, qu'on peut dire, dans un stéréotype, qu'on peut dire, construit très masculinement.
Oui, en fait, il y a deux, trois petits points. Un premier point, c'est que je pense que la façon dont les passions sont traitées dans les textes, c'est pas uniquement pour proposer, je dirais, un modèle idéal de ce que ce serait, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre monde. comprendre la dimension d'irrationalité, de comprendre aussi comment nous-mêmes nous sommes emportés, je dirais, par ce qu'on voit, par ce qu'on nous dit. Et donc, comment. Alors, donc, en soi, je dirais que les passions ne sont ni positives ni négatives. Hein, c'est une énergie qui peut aller dans le sens, je dirais, d'une élaboration, ou qui peut être terrible, qui peut être une force de manipulation, une massification, je dirais, comme je l'ai dit. Il y avait une question que je m'étais posée en lisant les textes, là. Je n'osais pas la poser, mais je vais la poser quand même. Quand je lisais la façon dont la violence est abordée ici, c'est de façon très crue, je l'ai dit. Hein, la violence, elle est crue dans le social. Quand Julia parle du féminin, alors une des choses très intéressantes, c'est que, contrairement aux idées reçues, Julia met le féminin du côté de la culture et le masculin du côté de la nature. Généralement, on entend souvent les discours contraires chez les anthropologues. Alors là, c'est vraiment intéressant. Et du côté de la culture, pourquoi ? Parce que comme elle le montre, étant donné aussi cet ancrage, je dirais, biologique, physiologique, du sexuel à l'intérieur du corps, hein, même si c'est un sexuel masculin, mais à l'intérieur du corps. Donc le sexuel, pour se manifester, va passer par toutes sortes de détours, d'élaborations, de stratégies. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait dire que la violence, telle qu'on en parle là, c'est quelque chose, non pas des hommes, mais du masculin, hein? Et est-ce que, dans les modes d'élaboration que propose Dominique, c'est intéressant de voir comment du féminin pourrait aussi, je dirais, faire sa trace, ou comment cette polarité entre du masculin et du féminin, je dis bien pas les hommes et les femmes, mais du masculin et du féminin, permettrait d'ajouter un niveau additionnel de complexité dans l'analyse, justement, des passions qui nous tissent et qui tissent le politique.
Je vais ouvrir au public. Je vois que Gilles Bubeau lève déjà la main. Et lève la voix.
J'ai la voix.
Dans le micro.
Oui.
J'ai pas lu le livre du lien.
Micro. C'est juste pour l'enregistrement.
L'enregistrement, oui. Bon.
Mais je vais le lire parce que j'ai entendu Hélène en parler avec beaucoup de passion au cours du week-end. Et puis, de nouveau, on a aussi beaucoup parlé avec comment ça vient déstabiliser les choses, mais sur un plan anthropologique. Le féminin civilise. Cette histoire serait une histoire de la civilisation. Est-ce que ça nous permettrait de mieux comprendre ce que Walter Benjamin dit dans son dernier texte, en 40, sur le concept de l'histoire, lorsqu'il dit que tout document de civilisation est un document de barbarie, et qu'il faut faire très attention, en quelque sorte, de ne pas présenter les choses comme étant un progrès tout à coup qui se produirait, qu'on serait passé dans l'ordre de la civilisation et que d'autres choses d'un passé originel, plus violent, plus barbare, seraient disparues. Et je le vois, si on réintroduit le féminin comme civilisateur et qui implique l'altération du masculin, mais qui ne peut jamais aller au bout, dans l'identification, une conquête qui n'est jamais faite, en quelque sorte, et qu'on regarde les grandes figures tragiques du monde grec, où elles sont des amantes et des amoureuses extraordinaires, mais des meurtrières de l'homme qu'elles aiment, Médée et tant d'autres, et tous les Argonautes et tout le cycle des Argonautes est construit là-dessus, une femme est enlevée et on va tuer et tout ce qui se passe. Donc, est-ce que ce n'est pas en même temps le rappel que la barbarie est essentielle à l'expérience humaine et que l'histoire de civilisation ne pourra jamais se dégager de la barbarie fondamentale, même en passant par ce qu'on pourrait appeler la tension la plus forte dont le guerrier est capable, c'est-à-dire se féminiser?
Peut-être qu'on peut, laisser d'autres personnes poser des questions. Oui, monsieur.
Pourquoi? C'est non, plus agréable.
Ok, ben, j'avais compris le contraire.
Non, c'est plus agréable que Julia.
Merci beaucoup de cette question qui me permet de dire qu'il y a différents récits. Donc, ce sont des grands récits ou de petits récits, mais disons qu'il y a des différentes voies. Alors, cette espèce de vision moderniste, entre guillemets, qui voit le processus de civilisation comme quelque chose comme un raffinement progressif et une féminisation progressive, nous la trouvons surtout chez Ovide et chez Lucrèce. Ce que nous trouvons, et ce qui va beaucoup plus dans le sens de votre question, ce que nous trouvons par exemple chez les poètes archaïques grecs comme Hésiode, ou ce que nous trouvons chez Platon, qui reprend de manière mimétique le langage mythologique, ce que nous trouvons, c'est un récit où il y a toujours le masculin au départ, et c'est ce que disait Hélène tout à l'heure. En effet, le récit dominant ancien voit le masculin comme originaire. C'est ça l'état de nature, c'est la virilité sans borne. Et puis le supplément féminin qui vient s'ajouter plus tard. Alors donc, chez les poètes archaïques grecs et chez Platon, cette espèce de complication du monde avec la sexuation, la différence des sexes qui vient s'ajouter, est un déclin. Mais c'est un déclin ambigu. Donc, d'une part, on a raffinement, urbanisation, civilisation. D'autre part, il y a déclin, déchéance, décadence. Et donc le mythe célèbre de la fabrication de la première femme, qui est cette chose tout à fait nouvelle, faite artificiellement sur le modèle des déesses, et qui porte avec elle une jarre. Il ne faut pas ouvrir cette jarre, évidemment. Le plus sot de tous, Épiméthée, ouvre la jarre et tous les maux, tous les soucis se répandent dans le monde. Donc voilà, la femme apporte dans le monde la vulnérabilité, la maladie, les soucis, les angoisses, les anxiétés qui travaillent les êtres humains. Autrement dit, la femme humanise cette génération toute masculine d'avant, dont on ne sait pas très bien comment ils vivaient, mais on sait qu'ils mangeaient avec les dieux. Et donc, c'est une catastrophe, c'est la déchéance, c'est la chute. C'est une histoire qui, évidemment, a été, dès l'Antiquité, mise en rapport avec la Genèse. Mais en même temps, la femme est un beau mâle, M-A-L, kalon kakon. Donc il y a toujours dans le féminin cette cohabitation de la beauté, du leurre, du trompe-l'œil, de la captivation esthétique d'une part, et de la catastrophe d'autre part. Il y a l'ambiguïté. Et il y a l'ambiguïté. Dans ces versions de l'histoire, la femme amène la barbarie aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ces histoires dans une espèce de réseau de récits qui se font écho les uns aux autres, qui se transforment les uns aux autres. Mais la barbarie n'est jamais oubliée. La violence n'est jamais oubliée. Parce que même dans la vision triomphale, urbaine, romaine, d'Ovide, plus ou moins ironique, en ce moment, je ne saurais pas trancher. Même là, les jeux ne sont jamais faits une fois pour toutes. Parce que Ovide est aussi le poète philosophe qui théorise un monde qui est constamment en train de bouger, de se transformer. C'est une métamorphose incessante. Donc, la transformation n'est jamais finie, on ne sait jamais dans quelle direction elle peut s'engager. Donc, absolument. Oui.
Mais j'aimerais bien poser une question à un moment, parce que j'étais en train de réfléchir et je me demandais justement la colère de Médée,
oui,
la colère de les mères en deuil,
oui,
de la Grèce ancienne. Était comme on peut dire, donc on pourrait être encore dans l'ordre de la barbarie, qu'on peut dire, hein, mais cette colère, qu'on peut dire, était et incorporer comme idée, qu'on peut dire, du danger de la, des émotions des passions féminines. Okay? Alors, il y a un moment, aujourd'hui, à Abu Ghraib, où, disons, la participation de la femme à la torture. L'autre jour, j'écoutais, disons, la télévision où on disait que les soldats britanniques ont fait des dérapages, des violences en Irak, et puis on met point et dit, et si des femmes étaient impliquées, des femmes soldats. Et c'est comme si, comment dire, cet acte soit en Irak, plusieurs actes en Irak où on vit les femmes, comment peut dire, protagonistes d'une violence et, du, comment dire, et de quelque chose de l'ordre de la barbarie, n'étaient pas contemplés. Donc il y a toujours cette idée, comment peut dire, des actes de violence des femmes à l'intérieur d'un monde qui est masculin et qui est comme, c'est quelque chose qu'on peut dire, de l'ordre du désordre, hein? Encore plus de cela. Tandis que c'est, dans, certes, comme dans la figure de Médée ou dans d'autres moments des figures, qu'on peut dire, cette colère déchirante qui touche aussi l'ordre social, hein? Et des dérangeantes, qu'on peut dire, peut être récomposée. Alors, est-ce que nous entrons, disons, quand nous faisons, quand les femmes participent à la torture en guerre, comme dit, c'est comme un acte de, comme dire, de violence impossible à repenser, à reconfigurer, selon comme dire, les logiques, et donc exposer à une, qui expose vraiment à une rupture de l'ordre. Oui. Qu'est-ce que tu veux?
Moi, je voudrais juste rajouter. Tu permets, Julien? Bonjour. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que quand on dit que la sexualité, le désir chez la femme passe par des détours, ça peut dire qu'elle devient mièvre. Hein? Parce que le cœur, je dirais, en tout cas moi, le cœur qui m'a particulièrement frappée dans le livre de Julia, c'est toute cette partie où elle va analyser les grandes figures de la tragédie. Hein? Elle va analyser. Et alors, elle va montrer comment ces grandes figures de la tragédie, en fait, mettent en scène des femmes. D'abord, il y a certains éléments de base qui sont les mêmes, mais qui sont élaborés de différentes façons chez les différentes héroïnes, et pour une héroïne en particulier, différentes versions. Donc, c'est une approche qu'on pourrait dire presque structuraliste dans ce
Absolument.
Sens-là, au sens où il y a un élément commun, les différentes versions, non pas pour chercher uniquement le point commun, mais pour chercher aussi les écarts. Et quand, je dirais, vous posez Pénélope, quand vous posez Médée comme absolument maîtresse de leur vouloir, de leurs actions, et au bout de ce vouloir de commettre, je dirais, des choses parfois terribles, on n'est pas du côté de l'efféminé, mais c'est un féminin qui implique une élaboration, mais qui peut aussi être au service du meurtre et de la violence. Hein, donc, il ne faut pas dire féminin, efféminé, doux, et ce n'est pas ça dont il est question dans le livre. Et cette diversité de la construction des personnages, c'est vraiment une merveille dans ce travail.
Non, c'est vrai que... la question du mièvre, c'est oui, une c'est question ça, absolument oui. cruciale oui. ici, parce que pour les anciens, pour faire vite, pour les anciens, il y a cette notion qui est psychosomatique, pour faire vite, et qui a à faire avec la texture du corps et la tenue du corps, pour ainsi dire, et en même temps avec des attitudes psychiques, de comportement, d'attitude. Donc, la mollesse. La mollesse est une des idées, des obsessions, disons, de l'anthropologie, c'est-à-dire de la conception des êtres humains, surtout, mais aussi des vivants, dans le monde ancien. Or, cette mollesse, donc en grec, malakia, mollitia en latin, cette mollesse est justement associée à la femme, au corps féminin et à la manière d'être féminine qu'on attend, et à l'enfant. Et la femme et l'enfant s'opposent à l'homme qui est ferme, qui est raide, qui justement peut affronter la guerre, la chasse, le froid, le chaud... Et donc la difficulté de l'être dehors, alors que la femme, parce qu'elle est douce et malléable, elle vit à l'intérieur, dans l'espace domestique, donc elle fait le feu, elle prépare le matelas, elle cuisine, et tout ça, c'est raconté un peu de manière anecdotique maintenant, mais ce sont vraiment les éléments de base de l'anthropologie des anciens, comment ils se représentent et comment ils représentent la polarité sexuelle. Or, la mollesse, évidemment, est très ambivalente. C'est-à-dire, il y a la mollesse comme faiblesse, comme mièvrerie, comme quelque chose qui est de l'ordre du manque de courage, manque d'agressivité. La femme, c'est l'homme manqué, c'est le guerrier manqué. La femme comique est celle qui fait la grève du sexe pour arrêter la guerre. Donc, Aphrodite ou Vénus contre Mars, c'est un grand thème de la peinture aussi. L'amour contre la guerre, mais en même temps, il y a l'intensité extrême de la violence féminine. C'est une intensité qui est très focalisée sur ce que les tragiques appellent le lit. Et il y a cet échange extraordinaire dans Médée où Jason, qui est l'homme qui ne comprend rien aux femmes, et en particulier à cette femme particulière, cette femme singulière qui est sa propre femme, et qui lui dit « Vous les femmes, quand le lit marche, pour vous tout le reste va bien ». Et donc, le lit est cette espèce de centre autour duquel tout gravite dans la vie d'une femme. Or, évidemment, c'est insultant. Jason, en disant ça, provoque Médée. Mais, en même temps, c'est sur ça que Médée répond. Parce que Médée répond parce que, comme elle manifeste avec ses symptômes, puisqu'elle fait voir sa souffrance de femme délaissée et trompée, et trahie et abandonnée, elle manifeste que justement il y a une souffrance à partir d'un amour qui manque, d'un lit qui fait naufrage, pour ainsi dire, dans sa vie. Et les autres le répètent, elle vraiment a fait tout pour cet homme. Eros était vraiment le centre de sa vie. Mais simplement, il y a la manière réductionniste, insultante de Jason de dire « pour toi le lit c'est tout » et puis il y a la manière dont elle parle de ça qui était « Eros pour moi c'est tout ». Donc la complexité, donc cette espèce de tissage où il y a le social, l'orgueil, la fierté, la sensualité, le plaisir du lit et en même temps la famille, les enfants, le lien social. Quand ça explose, les femmes sont aussi violentes que les hommes, plus violentes que les hommes. Effectivement, il n'y a pas de sauvetage pacifiste du féminin là-dedans, pas du tout. Mais c'est vrai que cette violence est plus frappante parce qu'elle est plus inattendue. Après tout, toute la poésie archaïque ancienne tourne autour de la colère et de la violence. L'Iliade, le premier mot du premier poème de la littérature occidentale, l'Iliade, est « colère ». La colère d'Achille aux muses chante pour moi, c'est ça. Et toute l'histoire de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. L'Odyssée, la colère de Poséidon contre Ulysse, qui est la cause de toutes les vicissitudes du voyage d'Ulysse. En d'autres termes, la colère fait la littérature grecque au masculin, ce sont des guerriers, des héros, mais aussi au féminin, puisque quand on touche Eros, les femmes explosent.
Tu étais toi ? On voit bien l'aspect performatif ce soir.
André, toi.
Donc j'ai beaucoup apprécié la finesse, la cohérence et la complémentarité des exposés que vous avez faits. Je travaille depuis assez longtemps sur la violence. Et donc là, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai vu une sorte de figure inversée entre la violence et la sensualité. Je m'explique rapidement, c'est-à-dire que la violence, en fait, c'est une sorte de suspension totale de signification, surtout une suspension de sens, Et donc, en fait, le discours, progressivement, quand il relate, finit par s'incorporer, disons, la violence, mais dans un discours. Et donc, en fait, il y a des effets de violence, mais qui se construisent dans le discours. Donc, il y a quelque chose qui se remplit progressivement, qui remplit et en même temps qui cache, bien entendu. Tandis que dans la sensualité, donc, en fait, on a une sorte de discours qui arrive en premier lieu et qui, justement, doit essayer de construire à travers l'espace et le temps, en fait, toute une discursivité.
Oui.
Et qui, bon, finalement, effectivement, s'arrête dans un acte qui est quelque chose qui, finalement, n'a pas beaucoup d'intérêt, disons, parce que c'est toujours la même répétition. Alors, donc, la question, c'est, en fait, est-ce qu'il y a quand même un rapport entre ces deux figures inversées? C'est-à-dire, est-ce que... Parce que là, quand on parlait de la sensualité, quand vous parliez de la sensualité, en fait, la violence était le viol. Mais en fait, il y a quand même une autre type de manière de penser, probablement, le rapport entre la sensualité et la violence. Et c'est un peu ça l'objet de ma question.
Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais en vous écoutant, j'étais en train de prendre des notes parce que ce qui me venait, c'est le malaise dans la culture de Freud. Pas parce que je veux absolument m'en référer à Freud, mais parce que Freud, dans, aussi comme Benjamin, dans un de ses tout derniers textes, le Moïse, l'homme Moïse et la religion monothéiste, dit qu'il constate que le progrès a signé un pacte avec la barbarie.
Oui.
Alors, on est en plein dans le thème.
Oui.
Sauf qu'en vous écoutant, je me disais, il y a peut-être progrès et progrès. Il y a peut-être un progrès qu'on pourrait mettre sous l'emblème phallique, c'est-à-dire d'une maîtrise, d'une Freud, dans le malaise dans la culture, dit « La civilisation, c'est d'abord pour se protéger des cataclysmes naturels, de la décrépitude du corps aussi. » Et une des ressources de la civilisation contre la douleur et la souffrance qui est produite soit par la nature avec ses cataclysmes, soit par le vieillissement et la maladie du corps, c'est le lien social, et c'est Eros, et c'est l'amour. Sauf qu'ensuite, il s'aperçoit que l'amour lui-même est un danger infini pour l'individu. On n'est jamais aussi en danger, dit-il, que lorsqu'on aime, parce que l'autre peut nous retirer son amour. Et donc, il y a un cataclysme aussi puissant qu'un ouragan qui peut nous tomber dessus individuellement. Et donc, il y a comme une contradiction insoluble, c'est-à-dire que l'amour est à la fois remède et poison, comme tout pharmacon, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire, est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait un... parce que je joignais tout ça au fait que la colère de Médée et le fait qu'elle tue ses propres enfants, c'est à partir d'une blessure au niveau de l'amour. Tandis que la colère d'Achille, c'est beaucoup plus narcissique comme affaire. L'amour, il y a du narcissisme là-dedans, mais c'est beaucoup plus du côté phallique, du côté du contrôle. Poséidon est en furie contre Ulysse parce que son pouvoir, il a été offensé. Ulysse l'a trompé au niveau de son pouvoir. Donc, il y a quelque chose peut-être du côté d'une violence qui serait peut-être révélée plus fondamentalement lorsque le pacte d'Eros, le pacte du lien social et de l'amour est trahi, et qui n'est pas tout à fait la même violence que celle qui concerne le pouvoir, l'aspect de domination, de contrôle, et ainsi de suite, qui serait plus d'un ordre phallique. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous posiez. Et je me disais, par exemple, que le progrès dont on parle et qui signe un pacte avec la barbarie, c'est beaucoup plus, on en constate les méfaits aujourd'hui. On a voulu maîtriser la nature, dominer la nature avec la technique, par exemple, et ça nous rebondit en plein visage. Est-ce que ça nie la possibilité d'un progrès qui me semble constatable au niveau de l'éros, c'est-à-dire au niveau du lien tant interindividuel que du lien social collectif, qui serait justement celui qui pointerait vers une éthique qui donne la primauté à l'autre dans un lien donc où la passibilité et la passion entendue dans son sens positif, parce qu'effectivement il y a des passions destructrices, pourrait avoir un rôle effectivement civilisateur et de progrès, mais au plan du lien. Je ne sais pas ce que en pense Julien.
En écoutant, je pense justement à cette association ancienne et qui est reprise visuellement d'Aphrodite et de Arès, c'est-à-dire de Vénus et de Mars. Donc la sensualité, Aphrodite est cette divinité qui incarne le désir et qui incarne le plaisir, mais avec toute la discursivité du désir et du plaisir, toute la mise en mots, symbolisation, donc c'est la séduction, donc c'est cette manière de chuchoter qui justement caractérise la première femme et qui vient d'Aphrodite. Alors Aphrodite est tout ça, hein, c'est ça flotte, ça bouge, c'est indéfinissable. Il y a aussi l'acte sexuel, mais justement l'acte sexuel ponctue quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant, et simplement interrompt quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, puis ça recommence heureusement. Ça c'est Aphrodite. Et Aphrodite a un mari qui est Héphaïstos, c'est le forgeron. C'est une espèce de couple polaire, parce que toute la beauté, la douceur d'Aphrodite est couplée au corps donc du forgeron, qui est le dieu le plus humain, en un sens c'est le dieu travailleur, le dieu qui s'échine à fabriquer ses armes, ses métaux. Il est toujours au milieu du feu, et c'est un dieu aussi avec un corps déformé, c'est un boiteux. Et Aphrodite, et ça c'est une histoire homérique, trompe son mari avec Arès, le dieu de la guerre, donc ce corps masculin triomphant, hyper phallique, c'est le dieu justement qui incarne l'agressivité masculine. Et ce couple va vraiment cristalliser quelque chose que le philosophe essaye de comprendre de manière plus ou moins allusive, et c'est ça, c'est le fait que Comment est-ce que s'articule la sensualité et la violence? Eh bien, ils font l'amour, la sensualité et la violence. C'est-à-dire que c'est une intermittence. C'est-à-dire que la sensualité est ce creux qui est nécessaire aux allers-retours de la violence phallique, disons. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que toute l'ambiguïté dont on est en train de parler là maintenant se manifeste dans cette histoire qui la transforme en récit et en image aussi, parce que c'est très vif. Et oui, cette ambiguïté, c'est l'ambiguïté du plaisir, du désir-plaisir qui chez Freud est intense et vital, et qui en même temps est aussi mort et petite mort, c'est-à-dire le désir est vie, mouvement, le plaisir, cette chute, cette décharge qui rassemble à quoi? Rassemble au nirvana, rassemble à cette nostalgie pour l'inanimé, rassemble à ce que Freud dit, l'orgasme est une petite mort, n'est-ce pas? Donc le plaisir est aussi cette expérience de chute. Et l'amour, c'est ce qui nous donne le plus de bonheur, et en même temps ce qui risque de nous donner l'angoisse, la souffrance, le manque le plus le plus tuant. Et c'est vrai, nous le savons tous, nous avons tous fait l'expérience de cette aliénation fondamentale qui est celle de l'expérience de l'amour. Donc, on en est tous là.
Je pense que sur cette belle parole, cette discussion de l'orgasme, on va inviter nos invités à prendre un verre avec nous. Il y aura du vin à déboucher et il y aura plein d'occasions de parler individuellement et poser d'autres questions. Mais puisque la librairie ferme à 9h, il faudrait qu'on commence quand même la partie où on peut joindre l'utile à l'agréable.